Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous allez bien? Avons-nous des visiteurs? Personne arrivée la première fois? Ou la pourrie? Tout le monde est le bienvenu, que Dieu vous bénisse. Que le fiston finisse. Besoin de finir. Hein. Voilà. Ouais, d'accord. Nous allons prier. Père Céleste, nous avons cette immense opportunité ce matin de nous rassembler selon les programmes établis. Nous avons décidé de nous rassembler les mercredis, les vendredis, soir et les dimanches matin. À chaque fois que nous pouvons accomplir cela, c'est une grâce de ta part. Parce que tu nous en donnes les moyens, tu nous en donnes la santé, tu nous en donnes la force, et nous t'en remercions. Nous ne venons pas pour nous voir, nous venons pour écouter ta parole, pour t'écouter, toi aussi nous parler, pour te demander également dans nos requêtes qui sont dans nos cœurs, que tu veuilles bien les considérer. Et en satisfaisant nos besoins, qui augmente notre foi. Si on voit que c'est vrai, nous n'en doutons pas, Père, que nous puissions tout simplement expérimenter cela, que tu vois nos problèmes avant même que nous les prononcions. Veuille nous assister. Et pour nos nombreux péchés, nous te demandons pardon. Que ta grâce surabonde en notre faveur. Te remercions pour le souffle de vie ce matin, pour la santé, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons prié. Amen. 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 Grande sœur, c'est vrai, ce n'est pas la première fois, mais content de te voir. Je transmets les salutations de la sœur Nicole la semaine. J'ai oublié de le faire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 2. Versets 11 à 13. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoi qu'ils ne soient pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons-nous asseoir. Voyons ici, nous lisons ici combien Dieu est déçu de son peuple alors qu'il a fait de grandes choses au milieu de son peuple, pour son peuple, Mais son peuple est prompt à changer de Dieu. Tandis que les autres nations, dont les dieux ne sont pas des dieux, ils ne changent pas leur Dieu. Ils vont vous répondre, si vous leur amenez Dieu, ils vont vous dire, ça c'est une histoire juive. Moi j'ai mon Dieu. Qui ça? Les ancêtres. Et Dieu parle. Il parle de lui, il dit, moi, je suis une source d'eau vive. Ce sera le titre. Dieu se dit lui-même être une source d'eau vive. Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau, l'eau est très importante. Hein. Sans eau, il n'y a pas de vie. Pour ce qui est de l'eau, eh bien, nous avons, le Seigneur en parle ici, des citernes, et vous connaissez tous, après les prédications, il y en a eu plusieurs, sur le citerne crevassé, mais ce n'est pas le sujet ce matin. Je crois qu'on en parlera. Il y a des sources, il y a des puits. Puits d'eau. Alors, les puits et les sources, vous pouvez les mettre d'un même côté. L'eau qui tombe ici, la pluie qui tombe, elle est récoltée dans la terre, elle tombe, elle arrive dans le sol. Lorsqu'il y a une couche imperméable, l'eau ne s'est pas traversée, l'eau s'accumule partout ici. Une poche. Toute la terre a une structure, une circulation d'eau qui ne change jamais. Ça montre qu'il y a une intelligence derrière. Le hasard ne peut pas le faire. Le circuit est toujours le même. Alors, quand vous creusez ici, vous vous trouvez ici, vous creusez ici, vous atteignez l'eau qui est là, ça, on appelle ça un puits. Ça va? Et là, au sol, vous êtes au-dessus du niveau de l'eau. Quand vous vous trouvez ici, vous êtes en dessous du niveau. Vous n'avez pas besoin de creuser. L'eau va sortir elle-même, ce qu'on appelle une source. Dès qu'il y a un moyen d'échapper, l'eau s'en va. L'eau que vous buvez, l'eau de spa, vient des sources de spa. Ça va? C'est en dessous du niveau, ce qu'ils appellent la nappe aquifère. Ça veut dire que les puits et les sources ont leur origine, ont la même origine en ce qui concerne l'eau, de l'eau souterraine qui se trouve là. La source n'a pas besoin d'une intervention humaine pour apporter l'eau. Donc, quand vous regardez vos bouteilles, vous lirez souvent « source naturelle ». Et puis, il faut creuser. Et l'eau, spirituellement, cette masse d'eau, l'eau vive qui est là, elle est vivante, cette eau. Parce qu'elle coule, circule. C'est un type Saint-Esprit. Ça va? Et nous, si nous regardons maintenant dans les évangiles, nous lisons dans Jean 4, lorsque Jésus-Christ parle avec la Samaritaine. Quand on parle d'eau vive, c'est quand il y a beaucoup d'eau. Énormément d'eau. Dans Jean 4, verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Il nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui-même une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous disions donc qu'un puits est une construction humaine. L'homme a dû creuser un trou pour atteindre l'eau souterraine. Et vous extrayez l'eau du puits, soit à l'aide de pompes, ou d'un seau, ou d'un quelconque récipient. Alors, il y a un fil rouge chez les enfants de Dieu. Quand vous commencez l'histoire depuis Abraham. Abraham, lorsqu'il a occupé un territoire, grande préoccupation, il creuse un puits. Amen. Ça, c'est ce que fait Abraham. Et ces choses sont écrites pour nous instruire. Genèse 21. C'était des objets de convoitise. C'était même parfois des sujets de guerre. Où les gens se battent pour l'eau. Et cette eau-là qui vient d'un puits, cette eau qui vient d'en dessous, elle a été filtrée par la terre, par les fissure des roches, et l'eau qui arrive là est tout à fait potable. Elle n'est pas traitée dans une usine. L'eau de spa que vous buvez, elle n'est pas traitée. L'eau qui est traitée, c'est celle du robinet. Ça va? Cette eau-là, vous pouvez aller à la source de spa. Vous prenez un gobelet ou, je ne sais pas, un verre, vous servez, vous la buvez directement, c'est une eau pure. Et Abraham a creusé parce qu'il avait besoin d'eau. Qui n'a pas besoin d'eau? Genèse 21, verset 29. D'abord, il y a eu un problème avec les serviteurs d'Abimélec. Et Abraham s'est plaint. Je vais commencer au verset 25. Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Au lieu de creuser, ils ont pris le puits de quelqu'un d'autre. Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. » Tu me l'apprends, je ne savais pas.
Tu m'en as point informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimélec, et ils firent tous deux alliance. Abraham mis à part cette jeune brebis, et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma part ces sept brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. »
Amen.
Abraham a creusé le puits. Il a eu Isaac. Isaac est venu. Isaac a également creusé le puits. Genèse 26. Verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Pourquoi il est parti de là, de cet endroit? Les puits que son père avait creusés, ont été comblés par les Philistins. Vous pouvez lire cela au verset 15. Sous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Méchant. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Quoi dans la vallée? Préoccupation d'Isaac, un puits. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Ils avaient l'habitude de donner des noms à leurs puits et aux sources. Serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Quand ils ont creusé dans les puits d'Abraham, qu'Abraham avait laissé, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont creusé à nouveau dans la vallée. Et un enfant de Dieu, tout fils d'Abraham, lorsqu'il est à la recherche de cette eau vive, lorsqu'il creuse, il ne creuse pas pour s'arrêter en chemin. Il doit creuser jusqu'à ce qu'il arrive aux eaux vives. Ceux qui s'arrêtent en chemin, ils n'ont rien. Ceux qui vivent du travail des autres, ils n'ont rien. Et Isaac ne s'est pas contenté de vivre avec l'eau que son père a laissée. Lui-même, il a creusé également. Pourtant, c'est Dieu qui lui a donné ce terrain. Pourtant, c'est Dieu qui lui a donné cet endroit pour y vivre. Mais là où Dieu vous met, ce n'est pas pour que vous restiez là branlant, mais c'est pour y travailler. Amen. Travailler pour votre salut. Amen. Travailler pour faire ce que Dieu vous demande de faire. Et vous devez travailler jusqu'à ce que vous trouviez de l'eau vive. L'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Amen. N'arrêtez pas le travail de votre salut sans avoir atteint l'eau vive. Et le fil rouge qu'il y a entre Abraham, Isaac et Jacob, c'est justement le fait de creuser. Ils ont chaque fois creusé, bien que les terres que Dieu a données étaient des terres riches, mais pour y vivre, il faut creuser. Amen. Quand Agar sera chassée, elle ne va pas creuser, mais là où elle va s'arrêter, au moins quand Sarah va la chasser, elle va arriver à une source, c'est-à-dire à un endroit où l'eau était disponible. À la Kairoi, comme elle a appelé ça. Donc, Lui ou le Dieu qui me voit. Dieu qui voit sa misère. C'est Dieu qui lui avait donné cela. Jacob, lui, on ne voit pas trop là où il a creusé, mais néanmoins, donc la Bible ne mentionne pas que Jacob a creusé, mais néanmoins, cette femme samaritaine nous parle du puits de Jacob. Dans sa fuite, Jacob avait trouvé un puits dans les champs. Genèse 29. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Là que Jacob a trouvé de l'eau et c'est là que cette femme samaritaine allait puiser de l'eau. Et on sait que le puits était profond parce que la Samaritaine dit à Jésus, il n'a pas de quoi puiser. Comment vas-tu faire? Jésus lui dit, moi-même j'ai de l'eau. Donc il y a les puits et les sources qui sont là. Allons en parler pendant un petit instant, mais avant cela, un mot sur les citernes. Les citernes sont des réservoirs d'eau, entièrement de fabrication humaine, que l'homme a fabriqué. Et l'eau ne vient pas, l'eau des citernes ne vient pas de l'eau souterraine, l'eau des citernes vient de l'eau de pluie qui coule, n'est-ce pas? Et vous avez un collecteur d'eau, il vous collecte l'eau et emmagasine l'eau dans ses réservoirs. L'eau des citernes dépend des pluies. S'il ne pleut pas pendant un certain temps, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. Elle dépend des pluies, c'est une première chose. Deuxième chose, cette eau, lorsqu'elle a ruisselé, elle a ramassé une grande quantité de microbes. Des choses qu'il ne fallait pas s'y trouver. Il ne devait pas s'y trouver. Non seulement cela, pendant que vous gardez cette eau, les microbes multiplient dedans. Souvent, les fermiers s'en servent pour arroser leurs champs, mais elle n'est pas potable. Alors, Dieu est étonné que le peuple de Dieu, qui est habitué à recevoir de l'eau de source, de l'eau d'un puits, allait préférer boire l'eau des citernes. L'eau des citernes qui vous rend malade. L'eau des citernes qui vous donne plein de parasites. Alors, Dieu prend les cieux à témoin. Il dit, cieux, soyez étonnés de ce qui se passe sur la terre. Les hommes que j'ai créés à mon image préfèrent l'eau des citernes. Et en plus, ces citernes-là, elles sont crevassées. Qui ne retiennent pas l'eau. C'est tout simplement inimaginable que quelqu'un qui ait connu le vrai Dieu, le Dieu véritable, qui ait goûté au Saint-Esprit, puisse continuer à s'abreuver des choses qui ne ressemblent à rien. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a donné? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous donne depuis que vous avez cru?
2 Pierre chapitre 1er.
Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. On dit amen à ça. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce que le Saint-Esprit a écrit, laissez ça comme ça. Amen. N'interprétez pas. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Autrement dit, la parole que vous tenez entre les mains, le livre que vous avez entre les mains, les paroles que ce livre contient, sont des paroles écrites par le Saint-Esprit. C'est vrai, Dieu a dicté cela à des hommes. Fils de l'homme écrit. Mais vous savez, quand un chef dicte une lettre, il dicte la lettre, c'est son secrétaire qui écrit. Ce n'est pas le chef. N'est-ce pas? L'écriture, c'est l'écriture du chef. Ou alors, à moins que vous ne fassiez cela, par voie mécanique. Mais si c'est à la main, ce que le chef va faire, il va juste signer. Et la parole de Dieu, Dieu la signe en la confirmant. Il confirme sa parole, montrant qu'il s'agit bien de lui. Alors, quand il s'agit de lui, continuez à vous abreuver là-dedans. C'est étonnant que lorsque les citernes sont proposées à des hommes, où il est dit n'importe quoi, on vous fait boire des choses imbuvables et beaucoup acceptent. C'est Paul qui s'étonne, il dit, si on vous apporte un autre Jésus, vous le prenez promptement. Mais qu'est-ce qu'il y a avec Israël? Qu'est-ce qu'il y a avec les chrétiens? C'est Élie qui dit, si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si l'Éternel n'est pas Dieu, eh bien, suivez Baal. Et Israël avait des doutes, c'est incroyable, entre Baal et le Dieu véritable. Alors que le Dieu véritable a ouvert la mer Rouge. Alors que le Dieu véritable les a nourris de la manne. Baal n'a rien fait. Tout ce que Baal a fait, c'est alléger la parole, la mélanger. Oh, ça c'était pour il y a des années. Mais aujourd'hui, avec le modernisme, c'est différent. Un enfant de Dieu, qu'il soit à Guérard ou ailleurs, il ne tombe pas dans le piège. Il creuse jusqu'à obtenir l'eau vive. L'eau qui donne la vie. Et les nations, justement, quand on voit ce que les nations faisaient, Lévitique 18. Vous comprendrez pourquoi parfois Dieu leur demandait de ne rien laisser, de tout dévouer par interdit. Dans Lévitique 18, au moment où il s'apprête à entrer dans la terre promise, l'Éternel parle à Moïse et dit: « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, d'où vous venez. Ne venez pas ici en disant, « Chez moi, dans ma tribu, les choses se passent comme ça. » Oubliez votre tribu. Désormais, vous êtes de la race de Dieu. Vous êtes d'une autre tribu. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. À Canaan, les choses qui s'y passaient étaient tellement permissives que les enfants de Dieu ont envié les Cananéens. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Les enfants, s'il y en a qui se disent enfants de Dieu, qui envient les Cananéens. Ils viennent à l'assemblée, mais ils vivent la vie des Cananéens. Il ne faut pas clocher des deux côtés. Ou vous suivez Dieu, ou vous suivez Baal. Avec Baal, tout est permis. Baal ne vous dira jamais « c'est mauvais ». Il vous dira « c'est bon ». Vous savez, ce qui est une infamie en Israël, ce n'est pas nécessairement une infamie en Canaan. Amen. Alors, quand vous lisez ce qui se passait là-bas, si vous continuez la lecture, je ne lis jamais le tout, mais vous comprendrez dans quel pays on est. On retient donc ce que le frère a dit sur les citernes crevassées. Il dit qu'elles sont vite contaminées. En fait, ces citernes sont venues d'une pluie antérieure. C'était un réveil, hein. Ça pouvait être un réveil, mais les temps sont passés. Pour échapper au jugement aujourd'hui, vous n'allez pas construire une arche de Noé. Du temps de Noé, l'arche de Noé était le véritable refuge. Mais aujourd'hui, si vous construisez une arche en bois de gopher, mais vous êtes perdu. L'arche aujourd'hui est tout autre. Et c'est la parole, c'est le Saint-Esprit qui vous dit aujourd'hui où est l'arche. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit aujourd'hui dans l'arche. Qu'est-ce qui a conduit l'éléphant dans l'arche de Noé? Qu'est-ce qui a conduit tel autre animal dans l'arche de Noé? Si ce n'est le Saint-Esprit. Et maintenant, c'est pourquoi ce n'est pas étonnant, dimanche passé, lorsque nous avons lu le fait que lorsqu'Éliézer est allé dans le pays d'Abraham pour aller chercher, une épouse pour Isaac, Éliézer n'est pas parti dans la ville chercher dans tous les quartiers. Il est parti à un endroit bien précis. Où il sait que c'est là que les filles d'Abraham vont venir. C'est là que l'Église bâtie par Jésus-Christ y va. L'épouse de Jésus-Christ boit l'eau qui vient de la source. Dans Genèse 24, Dans Genèse 4, verset 11, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. Est-ce que tu crois qu'elles vont venir? Sûrement. Elles vont sûrement venir. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Parce qu'il y en a celles qui ne vont pas puiser l'eau. Mais celles qui vont puiser de l'eau, ce sont celles-là qui sont intéressantes. Les autres qui prennent l'eau de la pluie, qui la ramassent, ou qui font fondre la neige, qu'ils ont pris sur leur toit ou dans leur jardin, parce que personne n'a marché dessus, et dit, faites ça une fois, s'il neige, lorsqu'il va neiger, prenez cette neige, faites-la fondre, vous allez voir plein de poussière dedans. Elle n'est pas aussi propre que vous le pensez. Et il y en a qui se contentent de ça. Et on s'étonne qu'on tombe malade spirituellement. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Jeunes gens, si vous cherchez à vous marier, allez à la source. Chercher à la source d'eau. Ça veut dire quoi? Éviter les incroyantes. Éviter les incroyants. Maintenant, on ne dit pas les membres de l'assemblée. Dans une assemblée, il y a des incroyants. Dans une assemblée, il y a des croyants. Il y a des soi-disant croyants. Il y a toutes les sortes. Mais il y en a qui sont là, qui ne puisent pas. Ils reçoivent de l'eau d'ici. Quand le culte sera terminé, ils iront recevoir de l'eau ailleurs qu'ils vont mélanger. Vous ne buvez pas de cette eau-là. En tant que fils d'Abraham, en tant que fille d'Abraham, si vous ne voulez pas de problème dans vos maisons, buvez tous de la bonne eau. Et si vous regardez, la Samaritaine, elle buvait dans le puits de Jacob. Le puits de Jacob, c'était un puits d'un ancien réveil. Et Jacob, elle allait dans l'eau qu'il fallait, naturellement, dans la nature. C'est l'eau qu'il fallait, malgré qu'elle menait une vie bizarre. C'est cette eau-là qu'elle buvait. Avec cette eau-là, en buvant de cette eau-là, elle a fini par rencontrer Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ lui dit, tu vois, l'eau que tu bois là, que tu viens puiser, cette eau, dès que tu la boiras, tu auras encore soif. C'est quelle eau? C'est l'eau qui te fait vivre ce que tu vis là, tout de suite. Va chercher ton mari, je n'ai pas de mari. Tu dis bien que tu n'as pas de mari. Parce que celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Je vois que tu es prophète. Finalement, lorsqu'il y a contact entre elle et Jésus-Christ, l'eau de Jacob ne sert plus à rien. Elle était bonne il y a une certaine époque. Et c'est valable pour vous et moi ce matin. L'eau du temps de la Pentecôte, des pentecôtistes, comme vous dites, ou des méthodistes, c'était bien à l'époque de tous ces istes-là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit parle. Amen. Elle vous fait puiser l'eau qu'il faut que vous puissiez puiser. Vous savez, les contraintes que nous rencontrons aujourd'hui sont différentes de contraintes d'il y a 30 ans, d'il y a 50 ans. La séduction d'aujourd'hui, elle est différente de la séduction d'il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, pendant que le Saint-Esprit vous parle, il vous permet de faire face à ces contraintes-là. Si vous avez soif, Jésus dit, venez à moi. C'est celui qui vous donne le bon goût de la bonne eau. Elle a jeté son seau, elle a couru dans la ville pour donner le témoignage. Les chrétiens cherchent donc le conjoint aux côtés de la, près d'un puits, car c'est là qu'ils vont puiser l'eau. Le puits symbolise le Saint-Esprit. La vie spirituelle que le Saint-Esprit apporte est un don de Dieu. Elle est disponible à ceux qui croient. Et cela représente quoi? Cette eau-là existe toujours. Il peut y avoir un temps de sécheresse. Les nappes sont toujours là, les nappes phréatiques. Or, quand ça baisse, ici en Belgique, on va vous donner des directives disant maintenant, il faut économiser l'eau. Pourquoi? Surtout, ça commence souvent en Flandre, parce que la Flandre est très basse. Comme elle est très basse, l'eau sort très vite. Ils sont près du niveau de la mer. Ce qui fait, ils n'ont plus vraiment l'eau qu'il faut. Ils vont aller boire l'eau de la mer, ça ne va pas, trop salé. Mais l'eau que Dieu donne, elle est gratuite. Amen. Jésus, l'Éternel dit dans Ésaïe 55, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Je n'ai pas d'argent. Même celui qui n'a pas d'argent. C'est gratos. Amen. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Dieu est prêt à assouvir votre soif gratuitement. Mais lorsque on vous propose l'eau gratuite pour votre mal, vous penserez peut-être, Satan vous dira que ça ne marchera pas, j'irai chez celui qui demande de l'argent, chez lui ça ira. C'est un charlatan, celui qui demande de l'argent. C'est gratuit. Vous imposerez les mains aux malades et les malades, ceux qui croiront, seront guéris. Ce sont les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les malades seront guéris. Vous avez soif de guérison, venez aux eaux. Jeunes gens, vous avez soif de vous marier, venez aux eaux. Vous avez soif de délivrance, venez aux eaux. Tout cela est gratuit. Ces prières qui vous coûtent de l'argent, c'est rien du tout. Et on vous dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne guérit pas? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne délivre pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Écoutez Dieu. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille. L'Esprit parle. Et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. L'expérience des eaux vives n'est pas seulement une expérience ponctuelle, fixée dans le temps. C'est une expérience continue dans toute votre vie qui pourvoit pour chaque croyant la disponibilité, le moyen d'une vie qui plaît à Dieu, d'une vie agréable à Dieu. Et c'est ce que nous devons rechercher chaque fois, la conduite du Saint-Esprit. C'est là que nous devons chaque fois aller y boire. Et nous, pour avoir cela, nous devons creuser. Creuser, aller profondément dans la parole. Pendant des années, pendant des siècles, ce qu'avait prophétisé Joël était une prophétie, c'était la lettre. Mais quand cela a été accompli, ceux qui ont bu, qui sont allés à Jésus-Christ, ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, qui l'ont suivi, ceux-là, ils ont pu avoir de quoi vivre, leur vie a changé. De peureux qu'ils étaient, ils étaient devenus courageux. L'apôtre Paul dit, lui aussi vivait avant d'une certaine eau, qu'il croyait être la bonne eau. Il dit, il était animé d'un zèle excessif. Dans Galates, chapitre 5, Paul donne ce conseil. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, ils ne s'entendent pas, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le tout est de savoir où vous allez puiser l'eau. Quel esprit vous anime? Si il vous anime vers quelque chose qui est en dehors de ce que l'esprit a dit, vous êtes dans le faux. Si l'esprit l'a dit, faites-le. Si vous l'appliquez mal, ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit corrigera ça. Vous savez, dans la chambre haute, ils ont élu un 12e apôtre. Parce que Judas était parti. Judas avait arrêté la marche avec eux. Ils ont élu un autre. Mais ce n'était pas lui le 12e. Mais qui a corrigé cela? Dieu lui-même. Le 12e apôtre a bien été pris par Dieu lui-même. Paul dit, il a plu à celui qui m'a appelé. C'est le sein de ma mère. Amen. Dieu corrigera cela. Amen. Tant que c'est écrit et que vous êtes sincère et que vous l'appliquez, Dieu corrigera la chose. Amen. Ayez cette confiance en l'esprit que c'est le cas. Amen. Parce que non seulement lorsque vous vous servez de cette eau qui sort de puits ou des eaux vives, qui sort de là, lorsque vous allez au Seigneur, vous-même maintenant, vous allez en dégager de l'eau, de l'esprit. Amen. Vous-même, vous deviendrez une source. Amen. Jésus dit ceci. Dans Jean 7. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Tout dépend de quoi vous avez soif. vous avez soif de quoi? Venez à Jésus. Et qui donne cette, et pour que vous puissiez venir à lui, vous savez, c'est un moyen qu'il a de vous attirer à lui. C'est-à-dire en vous donnant soif. Il peut vous donner une soif de guérison. Juste pour que vous veniez à lui. Il peut vous donner une soif de délivrance. Juste pour que vous veniez à lui. Il peut vous donner une soif, une certaine soif, c'est dans le but de venir à lui. Parce que tant que vous n'avez pas soif, vous n'irez pas à lui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et Dieu dit à son peuple que c'est un crime que de vouloir aller chercher de l'eau des citernes. C'est un crime parce qu'ils ont commis deux crimes. Le premier, ils ont abandonné l'Éternel. Le deuxième, ils sont allés boire des citernes crevassées. Des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Ce qui est bizarre, c'est que l'Évangile en lui-même, le parfait Évangile, l'Évangile originel, l'ancien Évangile, comme nous disons, il est difficile à apporter aux gens par rapport aux faux. C'est Satan qui fait ça. Il fait que vous croyez plus vite le faux que croire le vrai. Parce que le vrai est surnaturel. Le faux va près du naturel. Quand on dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, il va directement dans le naturel. Dois-je entrer dans le sein de ma mère pour naître à nouveau? Jésus dit, mais si tu ne comprends déjà pas les choses terrestres, si je te parle des choses célestes, qu'est-ce qu'il en sera? Alors, Dieu dit, cieux, soyez étonnés de cela. Au ciel, cela ne se passe pas. Il leur dit, frémissez d'épouvante et d'horreur, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. La source d'eau vive, c'est aussi une personne. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui vous tire, qui vous attire à vous pour que vous alliez boire chez lui. Et pendant que vous boirez chez lui, eh ben, cette eau-là vous transformera vous-même en une eau vivante, en un fleuve vivant, ou en une source vivante. Et moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées. Vous savez, les citernes, pour les fabriquer, il faut accomplir un certain travail. Et ils travaillent. Et le travail impressionne les gens. Je ne vous laissez jamais impressionner par le travail de quelqu'un. Si vous voulez être impressionné, que Dieu vous impressionne. D'ailleurs, quand Dieu impressionne, c'est beaucoup plus impressionnant que ce que l'homme fait. Lorsque vous allez voir un malade aux soins intensifs, vous le voyez, on lui met des respirateurs, des gros appareils, et l'homme intelligent vient et vous explique ces choses. Alors vous voyez des cadrans, vous voyez toutes ces choses, mais Dieu, lorsqu'il vous fait respirer, qui a besoin d'un écran là? Et pourtant, respirer, c'est une fonction vitale. Elle semble banale. Combien précieuse. Le cœur qui bat, ça semble banal. Mais s'il s'arrête, tout s'arrête. Et ça se fait si naturellement. Et ça, ça devrait impressionner. Et quand David regarde, il dit, quand je regarde, mais qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et il dit, tu as fait de moi une créature merveilleuse. Mais la création, elle est merveilleuse. Ce que fait la parole de Dieu, c'est merveilleux. Alors, si vous buvez de cela, vous vous approcherez de lui. Lorsque vous voyez la grandeur des étoiles, la grandeur des cieux, vous savez qu'il y a un Dieu grand. C'est à ce moment-là que vous vous approchez de lui. Vous allez dans la forêt, vous voyez ces arbres, vous voyez ces choses comme ce frère ou cette sœur qui a composé le cantique. Quand je vois la rivière avec son onde et toutes ces choses, je dis, combien tu es grand. C'est une manière de vous approcher de lui. Considérez les œuvres. Jésus dit, si vous ne me croyez pas, si vous ne croyez pas en la parole, croyez au moins aux œuvres. Les œuvres vous disent que le Dieu auquel vous avez cru est un grand Dieu. Ce qui est impressionnant, c'est quand c'est dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est impressionnant. On ne devrait pas lire cette Bible comme un roman. Les romans ou les livres, laissez ces histoires qui passent par les réseaux sociaux où des gens vous envoient et vous postent des prédications ou des choses, des réflexions qu'ils ont eues. Non. Vous avez une Bible. Vous êtes arrêté près d'un puits d'eau. Hein? Psaume chapitre 1er. Et ici à l'Assemblée. Ici à l'Assemblée, on ne fait que ce que Dieu nous demande de faire. Dieu demande de nous rassembler. Il peut parler à chacun individuellement dans sa maison. Mais c'est Dieu qui demande de vous rassembler. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite pour nous. Dieu veut que nous nous rassemblions. Ce rassemblement, on parlait avec mon frère hier, eh bien, ce rassemblement, c'est un sacrifice que vous faites. Et le sacrifice, vous n'avez pas à prendre votre bœuf, il est beau, hein? Il est sans, il est irréprochable. Conduisez-moi ce bœuf au temple pour qu'on me le sacrifie. Dieu n'accepte pas ça. Vous devez l'apporter vous-même. Même si vous habitez à 5000 kilomètres, vous devez l'apporter vous-même, ce bœuf. Et lui imposer les mains. Aujourd'hui, nous avons l'invitation du Seigneur. Nous avons l'indignation de l'Éternel, où l'Éternel s'indigne du fait que les gens laissent l'eau que Dieu a mise en réserve. Elle est inépuisable. Ça arrive que parfois le niveau baisse. Ça, c'est à cause du péché. Quand Dieu a frappé Israël de sécheresse, il n'y avait plus d'eau. Et il avait frappé Israël de sécheresse, pourquoi ? À cause du péché. Aujourd'hui, les temps de sécheresse commencent à sévir, surtout où ? Regardez bien, où ça ? Les États-Unis. Les feux de forêt. L'Europe. L'Espagne, en Europe, l'état du péché, c'est à cause du péché. Et ça va aller de pire en pire. Où les gens vont chercher cette fusion du Saint-Esprit. Ceux qui sont épris de Dieu, ceux-là, ils chercheront à ce que cette promesse s'accomplisse en eux. Parce que Dieu a promis. Et ce que Dieu promet, il accomplit. Et Dieu aime ceux qui aiment ses promesses. Ne vous fatiguez pas. Faites comme Isaac. Vous creusez et ne vous arrêtez pas. Jusqu'à ce que vous ayez trouvé de l'eau vive. Et quand vous creusez, vous avez trouvé de l'eau vive. N'allez pas creuser ailleurs. Si vous regardez bien, il a creusé là où son père a creusé. La parole, elle n'a pas changé. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Il a creusé là où Abraham a creusé. Isaac en a profité. Oh, Jacob en a profité quand il habitait là-bas. Et aujourd'hui, nous profitons tous de cette eau-là. Parce qu'Abraham, il cherchait justement la cité où Dieu est l'architecte, n'est-ce pas? Donc, c'est cela notre sujet de recherche aujourd'hui. C'est cette promesse qu'elle s'accomplisse. C'est bien de dire aux gens, on est maintenant à la fin des temps. Mais on est à la fin de temps, ça va te trouver dans quel état? Et de vous-même, vous ne pouvez pas arriver à être prêt. Il faut qu'il y ait ce Saint-Esprit que Dieu nous a promis. Cela doit être notre préoccupation première à ce qu'il y ait cette effusion dans l'Assemblée. Et alors, les bêtises dans l'Assemblée, il n'y en aura plus. Et alors, les histoires d'amour filéo, il n'y en aura plus. Ou quelqu'un vous dira, je vous aime, mais ne vous aime pas. C'est vraiment l'amour de Dieu qui va nous réunir. Ou toutes ces histoires, ces petites histoires, où c'est Paul qui dit cela, qui dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. Il veut bien, Dieu veut bien vous le donner. Il veut bien vous le donner. Mais encore faut-il que vous ayez soif. Mais surtout, n'allez pas dans les citernes crevassées. N'allez pas dans ces réseaux sociaux. Vous avez une Bible. Vous avez une Bible. Il y a un grand serviteur de Dieu qui a son âme, qui est parti, qui nous a quittés la semaine passée. Beaucoup le connaissaient, il chantait très bien. Jimmy Swaggart. J'aimais bien sa manière de chanter. Il avait son assemblée. C'est un grand serviteur de Dieu. C'est peut-être un pentecôtiste, mais bien. Mais il œuvrait là où Dieu l'avait placé. Il y a les Oral Roberts, il y a tous ces gens-là, ce que Dieu a placé. Oh, on en a certainement en Afrique, on en a chez nous, on en a ici. Mais aller là où les gens se préoccupent, des puits, là où ils creusent, jusqu'à ce que vous êtes sûr qu'il y a de l'eau vive en bas. Là. Quand vous êtes là, vous êtes sûr qu'il y a de l'eau vive en bas. Vous creusez. Abraham était certain qu'il trouverait de l'eau. Il y a des endroits où vous allez creuser, 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 vous n'en trouverez jamais. Et quand vous creusez, vous le trouvez. Dieu est où? Il est dans sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est dans sa parole. Il n'est nulle part ailleurs. Dieu est dans ses promesses. Prenez-le au mot. Ce qu'il a promis, prononcez-le. Dites-lui, Seigneur, c'est toi qui l'as promis. Dites-le lui. Ne le lâchez pas. Creusez jusqu'à ce que Dieu réponde. Comme on l'a dit pendant, je ne sais plus quand, mais on l'a dit, c'est Jésus lui-même qui nous a enseigné à importuner Dieu. Il dit, la femme là a importuné le juge inique alors qu'elle avait besoin. Jésus dit, et vous, élus, si vous criez à Dieu nuit et jour, c'est dans Luc 18 ça. Les promesses divines, ne les méprisez pas. Les droits que Dieu vous donne, ne les méprisez pas. Ce que Dieu vous donne, prenez. Si on dit que vous êtes gourmand, soyez gourmand. Si on dit que vous buvez comme un chameau, gloire à Dieu. Vous savez, le chameau a supporté le chemin jusqu'à Isaac en buvant je ne sais combien de litres d'eau. Et vous aussi, pour supporter le chemin, buvez l'eau qu'il faut. Buvez, ne vous arrêtez pas. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père Céleste, nous ne voulons pas être des fainéants, des oisifs, car il nous est dit de rajouter à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, la patience, l'amour fraternel, l'amour agapao. Et si ces choses sont en nous en abondance, ne nous rendons pas oisifs en ce qui concerne le salut. Nous ne voulons pas être des oisifs, des paresseux, mais nous voulons être des chrétiens qui creusent. Les chrétiens creusent jusqu'à ce que on atteigne les eaux vives. Quel est notre besoin? Te remercions ce matin pour le petit temps que nous avons passé. Puisse pousser tes enfants à méditer. Puisses-tu pousser tes enfants à lire, à se nourrir de cette parole qui contient tous les nutriments nécessaires à la vie spirituelle. Comme l'eau qui sort de la source contient des minéraux bons pour la santé, l'eau spirituelle du Saint-Esprit contient tout ce qu'il nous faut pour une vie spirituelle qui te plaît. Une vie qui te soit agréable. Selon qu'il est dit, les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a un Saint-Esprit parce que tu l'as promis. Il y a de l'eau quelque part. Cette eau vive. Nous ne voulons pas de l'eau stagnante, des citernes, des réservoirs d'eau. Mais donne-nous de ces eaux, de cette eau qui a fondu, qui a été filtrée pendant des années, des siècles, pour former cette eau abondante, source de la vie. Merci pour ta bonté, ta grâce. Merci pour l'occasion que tu nous donnes, que tu nous as donné de nous rassembler. Merci pour ce jour que tu as fait. Accompagne chacun de tes enfants et à l'appui dehors, qui nous parle de l'effusion du Saint-Esprit et qu'une pluie spirituelle envoie d'où l'appui de l'arrière et de l'avant-saison. En double portion, que le Fils et le Fils de Dieu soient manifestés en cet âge. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur, te demandons, remettant notre chemin du retour sous ton contrôle. sois avec nous, en le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Ah, ça doit être le moment, là. La proposition du frère Tombo. Pour ceux qui ont oublié, le frère proposait qu'on ait culte la veille d'une sainte scène, donc le samedi soir. Alors, elle est là. Je ne sais plus si c'est le matin ou si c'est le soir, mais je crois que c'est le soir. Parce que pour la Sainte-Seine, nous avons juste la Sainte-Seine le dimanche soir. Qui est pour le culte? Nous devons procéder au vote. Qui est pour le culte de préparation, il appelle ça, pour les Sainte-Seine? Qui n'est pas pour? Je vais recommencer parce que je n'ai pas compté. Qui est pour? Oui. Pour le culte? OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les autres sont des indécis? 7, oui. OK. Qui n'est pas pour? 1, 2, 3, c'est tout? OK. Donc, il y a un culte le samedi. C'est ça, non? Je recommence. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Qui est pour qu'il y ait un culte de préparation la veille de la Sainte-Seine? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5. N'aie pas peur, ma sœur, il n'y a pas de problème. 1, 5, 6. Là-bas, il y a 6. 7. Chaud, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a des mains, il y a des gens qui n'osent pas lever leurs mains. Bon, levez. Hein. On reposera encore la question. Parce que bon, il y a des mains qui sont mi-levées. Bon, on reposera la question, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais je voudrais vous dire ceci. C'est possible. Je vais retourner en Allemagne. Le 18, si Dieu le permet, pour 5 ou 6 jours. Peut-être avant, mais c'est selon comment Dieu va conduire les choses. Ça, c'est pour ce mois-ci, pour le cas que vous connaissez. Le 29 août, je vais aller en France. Ça, c'est vraiment à mon corps défendant. C'est un vendredi. Il y a une petite nièce, c'est-à-dire la fille de ma nièce. Donc, je suis un grand-père, là. Qui régularise sa situation. Bon. J'ai essayé de les dissuader, pour les fêtes, mais vous savez, quand ils tiennent à la faire leur fête, ils auront leur fête. Alors, il y a quelque temps, j'étais... mes grands frères qui s'occupaient de ces choses-là, sont mes grands frères, mais mon grand frère, maintenant, il est un peu handicapé, maintenant, pour cela. Tout le monde, maintenant, veut que je sois là. C'est vraiment mon corps défendant que j'irai, je leur ai dit, hein. Elle dit, mais vous n'avez qu'à régulariser, l'affaire est terminée. Mais bon,
veulent quand même leur fête. Et ce sera en France, donc je devrais y aller. Et le 28 ou le 29, 30, samedi le 30, et je reviendrai le dimanche. Voilà. C'est pour vous annoncer que je dois partir. Je vous demande de prier, surtout pour l'Allemagne, là c'est un cas important. Pour le reste, ça, il y a un papa qui disait, ah, si vous avez envie de festoyer, festoyez. Le papa du frère Pino, à son âme. Que Dieu vous bénisse.